Alors, de retour pour ce dernier bloc, dernière partie de Délirium environnemental cette semaine. Avant la pause, c'était Arsenic 33 avec la chanson Pause Café. Parlant de café, parlant de commerce équitable, Laure Varidel, cette, mon Dieu, femme
cofondatrice
d'Équitable, mais femme engagée, mon Dieu, un exemple pour nous tous. Eh bien, sort le 21 février prochain, Acheter, c'est voter, le code du café, un petit bouquin qui, ma foi, en promet beaucoup sur toute la question du café équitable et de son influence sur nos sociétés. On fait un dernier bloc à thème, celui des OGM. On délaisse un peu Kyoto. Les OGM, monsieur Bonin.
Ah oui, parlons-en.
Les OGM. Ah. Ça a l'air que le Canada, on produit des produits bio, ma foi, mais qu'on est un petit peu en retard.
Eh bien, si vous ne faites pas le lien encore, produits bio, en fait, je vous réexplique un petit peu rapidement qu'est-ce qu'un produit biologique, parce qu'il semble qu'on utilise des fois le terme, on le prend pour acquis. Eh bien, lorsqu'on certifie quelque chose de biologique, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques, en fait, d'engrais chimiques ou de pesticides pour faire pousser les produits. Et évidemment, il n'y a pas d'OGM dans ces produits-là. Eh bien, au niveau du Canada, on a des produits biologiques, évidemment, on en vend. Eh bien, on a eu une étude cette semaine, une intéressante étude publiée dans BioClip qui a été faite et qui regardait justement la croissance annuelle de la consommation de produits biologiques au Canada. Au niveau mondial, on parle d'une augmentation de 20% par année là, au cours de la dernière décennie. Donc, on voit que c'est vraiment un marché qui est en pleine explosion et paraît-il qu'au Canada, l'offre ne répondrait pas à la demande. Donc, les gens en demanderaient de plus en plus, mais on serait en train de tout simplement pas être capable de suffire, d'approvisionner suffisamment au point tel qu'on aurait entre 80 à 85% de produits étrangers biologiques au Canada. Ça vient, en fait, 80-85% viendraient de l'extérieur, donc seraient importés. Évidemment, on a les États-Unis qui sont juste à côté. Et même l'agriculture et agroalimentaire Canada considère que le secteur canadien des produits biologiques demeure modeste. Donc, en fait, on est en train de prendre du retard, évidemment, sur les États-Unis qui sont à côté, mais également sur la communauté européenne. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, les consommateurs européens, eux, achètent déjà encore plus de produits que nous. Ils vont acheter pour une moyenne de 27 $ états-uniens par année, tandis qu'aux États-Unis, c'est 22 $. Et au Canada, c'est 18 $. Donc, malgré le fait qu'on ne consomme pas beaucoup, on prévoit que cette augmentation-là va se continuer. Donc, présentement, le marché est environ, on calcule, à environ 1 milliard de dollars, pardon, en 2003 au Canada. Et d'ici 2007, ça va être 2 milliards. Donc, le marché va doubler, la demande va doubler. Mais les agriculteurs, malgré le fait qu'il y en a de plus en plus, ben justement, ne produisent pas suffisamment. Et en plus, on a de plus en plus de magasins qui offrent ces produits-là. On est rendu à près de 3000 magasins qui offrent les produits biologiques. On est passé en 92 de 1000 fermes environ au Canada à 3000 fermes biologiques et encore là, on ne répond pas. Donc, je crois que le message est clair. Les gens en demandent de plus en plus et on devrait être en mesure d'éventuellement subvenir à cette demande-là et peut-être de commencer à envisager des subventions intelligentes à ce type d'agriculture.
Ben exactement, Patrick, j'en venais parce que si, pour prendre le langage économique pendant 2 secondes, si l'offre ne satisfait pas la demande pour l'instant, c'est parce que toute la conjoncture actuelle de la production agricole au Québec puis au Canada ben incite non seulement à la production industrielle, mais à la production industrielle intensive, mais qui est pas nécessairement biologique. Ça, c'est une chose, puis ça pourrait être le sujet d'une émission complète, tellement le sujet est vaste. Et le financement, c'est un aspect qui incite à ce type de production industrielle-là. Mais ce qui fait en sorte, comme conséquence, je vais juste souligner ce point-là, que même dans le domaine du biologique, ce à quoi on assiste présentement, c'est qu'il y a une part croissante de la production d'aliments biologiques qui commence à être faite, mais de façon intensive, puis sans égard aux considérations sociales pour les travailleurs ou même des monocultures qui ont plein d'autres désavantages, en fait, parce qu'on fait juste que focaliser sur l'aspect biologique, puis on considère pas toute la filière.
Ben,
en tout cas, on pourrait y revenir.
Effectivement, mesdames qui ne reconnaissaient pas cette belle voix masculine nouvelle dans nos studios, c'est bien entendu Louis-Joseph Saussier qui est notre auditeur invité cette semaine.
C'est ce que je voulais dire. J'ai gagné spontanément mon droit de parole.
Et voilà,
je l'utilise de façon ponctuelle.
Louis-Joseph, oui, qui étudie, qui a fait une maîtrise en sciences de l'environnement. Et présentement, Louis-Joseph, tu es rendu?
Présentement, je suis doctorant en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et en co-tutelle avec l'Université Paris 1 Sorbonne.
Bravo,
toujours sur des
conséquences.
Toujours sur des enjeux environnementaux.
Eh bien, bonne chance dans tes travaux. On change un peu de sujet, mais toujours en lien avec les OGM. Il n'y a pas que les céréales ou il n'y a pas que ce que les cultivateurs de la terre, nos agriculteurs de chez nous produisent, qui peut être génétiquement modifié. Il y a des arbres aussi qui pourraient l'être.
Effectivement, une autre grosse déception à côté de mon café ce matin. On s'aperçoit que bon, les compagnies forestières nous disent qu'elles manquent de bois. Ça fait on a souvent entendu cet argument-là. On veut couper plus, mais on commence à manquer de ressources. Et donc, que faire? Eh bien, on a décidé qu'on allait investir dans le décodage du génome de l'arbre. L'arbre le plus populaire qu'on a utilisé jusqu'à présent, ça a été le peuplier. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a décidé d'en même temps travailler sur différents trucs. Il y a plusieurs groupes dans le monde qui s'attardent à essayer de voir si on pourrait pas modifier les arbres génétiquement de manière à ce qu'ils puissent storer plus de carbone dans leurs racines pour lutter contre les changements climatiques. D'autres font de la recherche pour voir si on pourrait pas soutirer le mercure du sol en modifiant les propriétés des racines de l'arbre, et d'autres encore font tout simplement comme tout bon forestier voudrait faire, modifier génétiquement les arbres pour qu'ils produisent plus de papier de manière plus efficace, plus rapide, en consommant moins d'énergie, donc pour générer plus de profit pour les entreprises. C'est un champ d'études qui est très actif, et là on s'aperçoit qu'il y a déjà 1 million de ces peupliers qui ont été génétiquement modifiés et qui ont été déjà plantés en Chine. On n'a aucun registre, on ne sait pas exactement où. Il y a quelques 400 bouleaux en Suède qui ont déjà été plantés, mais là, dans ce cas-là, les Suédois les ont trouvés, coupés, déracinés. On n'en veut pas, OK?
Le message est clair.
Caroline du Sud, plusieurs centaines sont dans des champs en ce moment en train d'être testés. Et là, bon, tout le monde, on a souvent discuté des arguments pour et contre, ou en tout cas des mises en garde contre toute production génétiquement modifiée. Ce qu'on nous dit, c'est que jusqu'à présent, les plantes qu'on modifiait génétiquement, c'est des plantes qui étaient déjà modifiées par l'homme. Donc le maïs, le blé, c'est des plantes qui ont déjà été travaillées par l'homme, des plantes qui ont été domestiquées et qui ne s'acclimatent pas bien au milieu naturel. Donc s'ils sont disséminés, ils peuvent repousser, peut-être se transmettre, les gènes peuvent se transmettre dans d'autres plants, mais dans des champs. Alors que les arbres, eux, sont des plantes complètement brise complètement à l'état sauvage. Et là, selon des études qui ont été faites sur des cèdres, on s'aperçoit que les pollens des arbres peuvent se répandre sur plusieurs milliers de kilomètres et pourraient fournir une compétition efficace aux arbres naturels un peu partout sur la surface de nos grands continents. Et ça, c'est vraiment troublant.
Moi, je trouve que Tembec ou Domtar devraient inventer l'arbre génétiquement modifié, feuille 8,5 par 11. Tu pousses directement, tu cueilles ça. Merci, bonsoir.
À côté de l'arbre à photocopieuse.
Quelle belle invention. En as-tu des choses à dire? Et c'est pour ça que chaque semaine, on se garde ce bloc que vous aimez tant, celui des nouvelles brèves, les petites vites de la semaine. Messieurs, lâchez-vous lousse!
Eh bien, pendant qu'on parle d'OGM, vous vous souvenez peut-être que l'étiquetage obligatoire en Europe et qu'ici au Canada, on n'a rien sur un étiquetage volontaire, puis j'ai jamais rien vu d'étiqueté en ce sens. Eh bien, l'étiquetage obligatoire en Europe semble porter fruit. On a dénombré seulement 77 produits sur les étagères des supermarchés en Europe. 2/3 des supermarchés les plus importants en Europe ont adopté une politique sans OGM. Ça veut dire que les consommateurs ne veulent pas d'OGM et n'en achètent pas, donc il n'y en a pas sur les tablettes. C'est comme 90% des gens au Canada qui voudraient l'étiquetage.
quoi.
On doute de l'hydrogène. On n'est pas encore sûr à propos de des véhicules hybrides. Et on a des problèmes, on a des possibilités de produire différentes sources d'électricité. Il y a des gens au Maroc, des chercheurs, des ingénieurs marocains qui nous ont soumis une nouvelle proposition. En fait, il y a un projet qui a été breveté, des centrales atmosphériques alimentées par la pression de l'air, des centrales électriques alimentées par la pression atmosphérique. On pourrait donc produire de l'électricité à partir de différents de pression entre l'air qui entre dans la turbine et l'air environnant dans la turbine elle-même.
C'est à suivre. Ok, allez voir sur notre site web www.radio-dm.net, vous allez peut-être comprendre la nouvelle d'Hugo, parce que moi, j'y m'ai perdu. Eh bien, plus rapidement, la première fois, on fait les 100 plus compagnies les plus durables nommées à Davos, 100 compagnies les plus durables. Eh bien, parmi le top 3 qu'on pourrait dire, je vous parle de British Petroleum, soit de Shell, donc je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'ils font là. Et qui était l'autre qui me faisait marrer? Ah! Alcoa, qui est une aluminerie qui, ma foi, détruit.
Alors, on parle des plus durables, les plus durables que les autres.
Ah oui!
Toyota serait plus durable que Ford!
Paraît-il. Et au Canada, Alcan également fait partie des plus durables.
Wow. Alcoa serait plus durable que Alcan, qui serait plus durable qu'un autre en Afrique du Sud qui est en train d'arracher.
C'est insoutenable, arrêtez!
Plus durable, ça doit vouloir dire celui qui a le moins de chances de fermer rapidement. Non à la motoneige sur un lac. Vous savez, dans il y a le dossier de la motoneige qui a fait beaucoup de bruit cet automne. On a donné raison à un recours collectif le long du sentier le Petit Train du Nord pour empêcher le passage de motoneige derrière des propriétés privées. Eh bien, la grogne monte tout près du lac Saint-Charles, tout près de Québec. Mais le seul problème, c'est que vous ne pouvez plus rien faire. Parce que Jean Charest a bien entendu passé une loi qui vous empêche de faire un recours collectif. Alors, selon M. Charest, continuez à chialer, mais vous ne pouvez pas rien faire contre ces gens-là qui polluent votre vie.
Est-ce qu'on a le droit d'encourager la désobéissance civile à la radio? Bloquer une piste de motoneige avec un véhicule automobile, c'est pas très compliqué. Mais c'est pas nous qui vous l'avons dit. Toujours est-il qu'au Canada, 81% des Canadiens souhaiteraient que le gouvernement mette des lois plus strictes en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 81% des Canadiens et les Québécois qui se démarquent avec 92% des Québécois qui veulent des lois plus strictes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, 75% des Canadiens veulent qu'on investisse davantage dans l'environnement Canada. Un message pour quelqu'un. Un ministre.
Une grande pandémie frappe la planète à peu près à tous les 30 ans. La plus grande qui a eu lieu en 1918, c'était la grippe espagnole. Quelques 50 millions de personnes mortes. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, et le Center for Disease Control and Prevention regardent en ce moment la fièvre aviaire et craignent. On s'aperçoit qu'il y a des taux de transmission très importants. Près de 72% des personnes ayant contracté la maladie en sont mortes. Alors que dans le cas du SRAS, par exemple, seulement 10% des 8000 personnes qui avaient contracté la maladie en étaient mortes. On craint fort et on est en train de développer des programmes de prévention et de protection.
Vous êtes tanné de manger des hosties remplies de pesticides. Eh bien, une église en Angleterre a décidé de virer au vert. Eh bien, oui, rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Donnons des hosties biologiques, mesdames et messieurs. En plus de ça, vous aurez droit à du pain biologique. Eh bien, si vous voulez davantage de détails, allez en Angleterre, c'est là que ça se passe.
Et amen. Et un qui devra aller à l'église, c'est sans doute M. Robert Tessier, président de Gaz Métro, qui est allé de la déclaration de la semaine. Le Québec ne peut plus se permettre de faire exception à la tendance lourde sur le plan mondial qui consiste à recourir au gaz naturel pour atteindre une plus grande compétitivité et un développement plus durable. Si c'est pas de la belle démagogie, ça, mes amis, monsieur, allez vous confesser tout de suite, ça n'a pas d'allure dire des affaires de même.
On va le reprendre dans les coups de masse, je pense, il en mérite un mot. Eh bien, moi, je suis dans ma phase religieuse de ce temps-ci. Ça n'a aucun lien avec mes sources d'information, mais vous savez, 1000 catholiques protestants et des juifs également, soit des leaders de leur communauté aux États-Unis faisant partie de 35 États, se sont rebellés contre George Bush et ses réductions du budget de l'Environmental Protection Agency, l'Agence de protection environnementale aux États-Unis. Vous voyez, même les chrétiens et les religieux se mettent contre George, ça va pas bien.
Connaissez-vous le Carbon Disclosure Project? En fait, c'est quelques 143 grands investisseurs institutionnels qui écrivent à tous les ans aux 500 plus grandes entreprises pour leur demander de divulguer des informations sur leurs émissions de gaz à effet de serre, et on espère par ce geste entraîner les compagnies à produire moins d'émissions de gaz à effet de serre et donc faire des productions beaucoup plus responsables de différents produits de consommation, même si à la base, consommer, c'est polluer.
Eh bien non, n'ayez pas peur, je ne dirai pas la même nouvelle deux fois cette semaine, mais simplement peut-être que M. Patrick Bonnet, dans son élan religieux, a peut-être vu la lumière du Seigneur Tout-Puissant l'éblouir devant l'effet du budget états-unien qui est proposé pour 2006. On vous apprend que l'EPA, l'Agence environnementale, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, eh bien, serait coupée de 6% de son budget, un budget qui tourne autour de 7 milliards de dollars US par année. Et on vous rappelle que le budget états-unien dans son ensemble, eh bien, touche les 2568 milliards de dollars. On essaie de réduire le déficit à seulement 390 milliards pour 2006.
En Californie, on est en train de voter comté par comté de bannir les biotechnologies sur les terrains agricoles. Et là, tout récemment, c'est un comté de production de viticoles qui vient de faire le vote, et c'est le quatrième comté. Bonne nouvelle, mais sapristi, est-ce que c'est pas l'État au complet, voire la nation au complet, qui devrait réfléchir à cette question-là, et non seulement un comté? C'est une victoire de la petite démocratie, mais peut-être pas une grande victoire dans la lutte aux OGM.
Oula, eh bien, moi, je vous parle de qualité de l'air. Est-ce que vous savez que c'est le premier forum, ou du moins c'est un forum sur la qualité de l'air qui se tiendra avec l'industrie forestière canadienne? Eh bien oui, un coup d'envoi à cette grande réunion. Eh bien, je tire une petite déclaration. Si nous sommes ici, c'est que ça nous intéresse. Pour l'instant, nos investissements sont réduits au minimum. Mais dans l'industrie forestière, il faut planifier à long terme pour 10 ou 15 ans. Eh bien, si vous faites la même chose avec vos réductions de gaz à effet de serre comme vous avez fait avec la forêt, ça risque de pas réduire bien bien fort, parce que 10-15 ans, ça n'a pas l'air possible de planifier pour vous.
Eh bien, une petite dernière. On vous rappelle que les audiences publiques du BAP concernant le projet d'aménagement de la station de ski au Mont Orford ont pris fin la semaine dernière. Le constat, eh bien, le BAP doit choisir entre favoriser la rentabilité économique d'une entreprise touristique ou sombrer dans l'illégalité et changer de vocation un terrain qui est protégé par la loi de toute exploitation commerciale. On vous laisse de ce pas vers un petit pont et on reprend sur un rythme tout aussi hyperactif pour retour avec nos coups de cœur et coups de masse. Eh bien oui, c'est déjà la fin, le dernier bloc, et on se laisse lousse les coups de cœur, coups de masse, et peut-être aussi au calendrier cette semaine.
Ah, quel plaisir de vous parler de mes amis français. Eh bien, ils sont sortis dans la rue et vous allez essayer de trouver le lien. Vous allez le trouver pour la défense des 35 heures. Parce que peut-être que si on travaillait moins, qu'on avait le temps de respirer et de s'accouler douce, ben on réfléchirait à ce qui se passe sur la planète. Et c'était un coup de cœur à la France. Parce que moi, je suis tanné de travailler comme un bouc.
Voilà. Eh bien, merci Patrick. Étienne à la régie, un petit coup de cœur ou un coup de masse?
Je profite de cette tribune pour faire un petit commentaire social. On en parlera de en début d'émission, donc ça vaut la peine d'en parler encore une fois. Le CHUM, tout le monde en parle, c'est le sujet de l'heure. On va en parler encore pour deux semaines, à ce que j'ai compris d'ailleurs aujourd'hui. Donc, j'en profite pour ajouter mon grain de sel à tout cela en vous disant que un CHUM entre Outremont et Ville-Mont-Royal, juste une question d'identité de population. Pensez-y, il y a quelque chose qui marche pas. Puis, une question d'accessibilité. On a parlé tout à l'heure de la train de la banlieue qui se rendait juste, qui devait passer par là et qui serait probablement coupé à cause de ça. Mais juste l'accessibilité à cet endroit-là en transport en commun, pensez-y, il y a un métro proche et c'est sur la ligne bleue. OK, la ligne qui ferme à 11h le soir, OK? Et cette ligne-là, je l'ai pris pendant 5 ans pour me rendre à l'école. Je peux vous le dire, c'est assez incroyable. Faut que j'arrête. J'en parlerai encore pendant des minutes, mais je vous avertis, c'est assez incroyable.
Vous pouvez le deviner, deux gros coups de masse, c'est deux pétroliers qui se plantent un dans l'autre. Elle était pas difficile à faire, c'est vraiment dramatique. La mer Méditerranée n'est pas assez grande pour vous deux, les boys.
Eh bien, notre invité de la semaine, Louis-Joseph, un petit coup de cœur ou un coup de masse?
Ouais, un petit coup de cœur spontané. Non, pas un coup de cœur, un coup de masse, c'est là, pour les grands médias. Un coup de masse pour les grands. Ouais, pour les grands médias de masse, entre autres Radio-Canada, qui ont tardé, même si on était dans un des pires épisodes de smog des dernières années, qui ont tardé à nous parler du pourquoi. Ils nous parlaient des conséquences du smog. On avait un médecin qui nous disait oui, faites attention, sortez pas trop dehors, tout ça, mais ça leur a pris quand même plusieurs jours avant même de s'attarder aux causes. Puis comme André Delisle disait tout à l'heure, même l'accent a beaucoup été mis sur les poils à bois.
C'était bien André Delisle.
C'est donc difficile de se poser la question du pourquoi, hein?
Eh bien, parlant de médias de concentration et de baillons à certains autres, eh bien, il y a une manifestation ce dimanche 13 février 2005 à 13h. Artistes et personnalités du milieu des médias, vous aurez déduit que c'est la vente de CKAC, en fait une des deux dernières équipes de salles de nouvelles privées indépendantes du Québec qui a été acheté. Eh bien, c'est au métro Peel et Sainte-Catherine à 13h ce dimanche pour tous ceux qui trouvent que c'est important qu'on ait des sources d'approvisionnement nouvelles qui soient un peu plus indépendants que vous les connaissez déjà. Je veux pas faire de pub pour vous.
Coup de masse, grande surprise aux nous tous. L'administration Bush vient d'annoncer encore une fois une coupure budgétaire pour le EPA, Environmental Protection Agency. Donc, on parle de 6% de coupure budgétaire sur un budget qui était déjà maigre.
Eh bien, moi, coup de masse, Louis-Joseph, tu nous parlais des médias de masse, et moi, je leur redonne un autre coup de masse. On parle beaucoup de développement durable ces temps-ci, sauf que les médias ne souscrivent pas, je crois, à leur devoir d'éducation. Le président de Gaz Métropolitain qui nous parle de développement durable et le président du regroupement environnemental de peu importe quel coin qui nous parle de développement durable, ce n'est pas la même chose. Donc, une petite touche critique de la part de nos médias de masse aiderait sans doute la population à être mieux informée.
Oh, eh bien, écoutez, tant qu'à parler d'information, je vais vous parler de publicité. Je sais pas si vous êtes au courant, dans un métro à Montréal, il y a eu des publicités Colgate qu'on retrouvait des dents partout sur les marches, sur les murs. Il n'y a pas moyen de pas avoir un sourire. Par la suite, il y a eu CoverGirl ou je ne sais quoi. Eh bien, on est rendu à faire de la pub sur la petite carte elle-même et de la pub pour des émissions de TQS. C'est-tu rendu bas?
On s'ennuie des petites bernaches brunes sur la carte du monde.
Moi, la pollution publicitaire depuis cette invasion-là de Berry Ucam à Colgate, j'ai tout simplement arrêté de me brosser les dents. J'ai changé de marque.
Eh bien, peut-être un petit coup de cœur à tous ceux qui consomment de la bouffe bio. On vous a dit que la situation au Canada, eh bien, que c'était peut-être difficile pour nos producteurs, mais ça veut pas dire d'arrêter. Continuez à demander des produits. C'est comme ça que si on se sert des outils du marché, nous allons peut-être vaincre l'ennemi.
Eh bien, coup de cœur, tant qu'à y être, Équitas, allez sur leur site, ils ont un répertoire de fermes biologiques qui vous apporte des beaux petits produits biologiques dans des points de chute, et vous avez plus d'excuses de ne pas acheter des produits biologiques et d'encourager des commerçants locaux, des agriculteurs qui touchent de leurs propres mains la terre si chère. Ok, j'arrête.
Eh bien là, gros coup de masse, depuis le temps que plein de monde nous annonce constamment que les produits génétiquement modifiés pourraient régler tel ou tel problème, améliorer notre productivité, nous permettre de faire plus avec moins et blablabla, mais personne ne veut prendre la voie pour s'assurer de vérifier leur innocuité, pour vérifier qu'ils soient vraiment, qu'ils permettent vraiment de faire d'amener des améliorations à nos productions. Il y a personne qui regarde ça et c'est frustrant. C'est frustrant. Étudiez un peu les effets à long terme des OGM SVP.
PPP, je vous parlerai maintenant. Au secours, la Coalition citoyenne pour la gestion de l'eau au Québec organise en fait un colloque spécial PPP, partenariat public-privé, parce que vous savez qu'il y a le mythe, non pas le mythe, mais en fait ça rôde au Québec dans la gestion de l'eau. Et bien des maires de France qui viennent vous en parler en fin de semaine, c'est samedi que ça se passe, le 12 et 13 février, en fait, pardon, le 12 à Montréal et le 13 à Québec. Vous aurez des informations sur www.ausecours.org. Le tout se passe à l'UQAM ce samedi 12 février. Les PPP, on n'en veut pas dans l'eau.
Pas de panique, Patrick.
C'est bien. Eh bien, continuons dans les activités. Mardi, le 15 février prochain, Kyoto, le protocole à la veille de sa mise en œuvre, l'heure de vérité dans le secteur des transports, on vous le rappelle, à la biosphère. Sinon, un atelier de certification des services en horticulture écologique aussi. Vous pourrez aller voir ça sur notre site Internet. On vous invite aussi au troisième salon du vélo Expodium sur roue. C'est une activité qui aura lieu le vendredi, du vendredi 18 au dimanche 20 février prochain. C'est 10$ ou moins, donc c'est une activité qui est abordable pour tout le monde au Palais des Congrès à Montréal. Allez voir encore sur notre site, le www.radiodelirium.net.
Mardi le 15 février, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cocktail Kyoto, 13h30 à 17h à la Biosphère de Montréal, organisé par le Centre d'action sur les changements climatiques. Allez voir sur leur site, vous allez avoir la programmation au complet parce que le 16 février, ce sera l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
Eh bien, Délirium environnemental, la seule émission d'environnement au monde qui est capable de vous proposer la même activité deux fois en deux minutes.
Je crois pas.
La semaine passée, c'était la même nouvelle. Cette fois-ci,
mais là, au moins, c'est pour une activité qui est chez nous. Eh bien, peut-être une petite activité, une dernière en finissant jeudi, le 10 février prochain, de 8h à 17h. C'est le Forum sur les eaux usées montréalaises et la récupération des usages récréatifs en ville. Vous voulez vous réapproprier votre fleuve? Eh bien, c'est l'occasion d'y aller. C'est où? C'est au centre 7400, le 7400, boulevard Saint-Laurent, près du métro Castelnau.
Mais arrêtez-moi quand je dis deux fois la même activité.
Nicolas, tu disais que les médias ont un devoir d'éducation. Répéter, c'est bon en pédagogie.
Et voilà, c'est une technique de l'éducation.
Planter le kilo.
Qu'est-ce qui se passe le 15 février?
Et voilà, Kyoto, allez vous renseigner. Eh bien, voilà, c'est tout. Après toutes sortes d'embûches, eh bien, je remercie Patrick Bonin, Hugo Lachapelle à la lecture, ma foi, ô compliquée de l'actualité cette semaine en environnement. Je remercie aussi Étienne Côté-Paluc à la régie et à ses commentaires tout le temps constructifs dans les coupures coup de masse. Je remercie aussi, mon Dieu, Louis-Joseph Saussier, notre invité surprise de la semaine, André Bellil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique pour ses propos toujours justes en ce qui a trait à la qualité de l'air au Québec. Je vous souhaite une bonne dernière semaine de l'Avent Kyoto. Espérons que la semaine prochaine, nous aurons un sourire dans le visage. Bonne semaine.
Kyoto, c'est clair.